nos yeux. Quand on joue ce jeu, c'est trop tard pour nous de renier, trop tard pour moi de renoncer.
Samedi soir, dès 22h, retrouvez Voltage Club. Voltage Club. Où que vous soyez dans la région, ambiancez-vous avec les mix de Laurent H. Les meilleurs classiques club, les meilleures nouveautés et remix exclusifs. Voltage. 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 Dance Music. Voltage, 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 voltage.
No stress. Think I'm crazy.
Voltage, dance music.
Bienvenue sur Voltage, la seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nous sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Je suis surexcité.
Oui, je vois ça.
Vraiment, je danse dans tous les sens. Je suis trop content de te recevoir, Flo.
Bah, ça fait plaisir. Moi, je suis très content d'être là aussi. Bonjour.
Florian Honneur est notre invité. On est en circuit court hein, aujourd'hui, je vous le dis. Mais vraiment, on est venu le chercher juste à côté parce que Flo, en fait, il bosse sur la radio Latina.
Oui.
Qui est vraiment collé au studio de Voltage.
Ah, mais je me disais que vous avez déjà croisé quelque part.
Tu sais qu'on avait mangé ensemble à la cantine.
Ah, c'est toi la fille de la cantine. Qui prend deux entrées et trois plats.
Il a râlé parce qu'on n'a pas été le chercher en bas tout à l'heure du Oga.
Bah, vous m'avez dit, je suis invité. Les invités, vous allez les chercher en bas d'habitude.
Bon, alors Flo, je vous explique qui c'est, Flo. Vous voyez, quand il est genre minuit 30, vous êtes sur YouTube et vous tombez sur la vidéo de deux Indiens qui sont en train de construire genre une piscine en plein cœur de l'Amazonie. Et juste en dessous de la vidéo, tu vois un gars qui dit on va tester tous les fromages à raclette du monde. Tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh ben c'est Flo.
Ne fais pas l'innocent parce que tu connais l'algorithme de YouTube et de Google en général. Si tu tombes sur des vidéos ouais. de bouffe, c'est que Google a cerné que tu n'aimes pas que les Indiens qui construisent mais des murs.
J'ai tellement saigné tes vidéos. Tu sais qu'à cause de toi, j'ai vraiment commandé beaucoup trop de fois sur Deliveroo.
C'est vrai.
Mais attends,
quand tu regardes tard le soir, on m'a déjà raconté. Il y a des gens qui me disent ouais franchement, j'étais une fois il y a un couple qui m'a raconté. Ouais, on était dans le lit le soir, on regardait ta vidéo avant de dormir. Le bébé était couché et on a vu un burger. Le seul truc qui était ouvert, c'était le fast-food à côté. À côté, on a pris le bébé, on est descendu à 1h du matin tellement ça nous a donné faim.
Mec, combien de fois j'ai commandé, genre en regardant ta vidéo, je me suis dit, putain, non, mais non, attendez, parce que putain, le burger il m'a l'air quand même très très bon là. Bon, allez, on commande. Florian Nert est suivi par plus de 600 000 personnes sur YouTube. Tu fais des dégustations dans plein de restos un petit peu partout en Ile-de-France, un petit peu partout en France aussi. Mm-hmm. On va parler tout ça avec toi. Merci à toi d'être venu aujourd'hui dans le 10-15 de Voltage. Juste avant, on écoute Pink avec Irrelevant sur Voltage, la radio parisienne. Merci de nous avoir choisi à Paris et dans toute l'Ile-de-France. C'est vendredi aujourd'hui.
Du 10-15.
Et lui c'est Florian Honneur, il est notre invité aujourd'hui dans le 10-15 de Voltage. Je suis très content de te recevoir. Flo, tu testes plein de restos en France, en Ile-de-France, t'as une chaîne YouTube Florian Honneur. Donc forcément tu connais un petit peu la maison parce que oui on se connaît puisque Flo bosse vraiment le studio d'à côté.
Bah oui, je fais la radio aussi à mes heures perdues.
Donc tu nous connais Maud et moi, tu sais qu'on aime bien bouffer.
J'ai cru remarquer.
Ça se voit un petit peu, regarde.
Bon, ça se voit peu.
D'ailleurs je sais pas comment tu fais toi pour manger autant. C'est le truc que je disais à Maud, je sais pas comment tu fais pour manger autant et ne pas prendre de poids.
Non mais je prends un peu de poids quand même, je fluctue.
Et c'est fais fluctuant. Du sport aussi.
Ouais, j'essaye de faire du sport. Disons que l'hiver, quand on a les doudounes, les gros pulls et tout, ça va, ça se voit moins. En maillot de bain, bon.
Tu rigoles ou quoi, t'es hyper bien gaulé?
Non, j'ai des bourrelets. Hein. Moi en fait je prends plus sur les côtés, j'ai ce problème qui est plus prendre sur les côtés que dans le ventre. Donc quand je regarde mon ventre, je fais ah bah ça va en fait. Et après quand je regarde dans le miroir, je fais ah ouais, non, ça se voit un peu sur les côtés.
Je pense que ça t'arrive parfois, genre tu sais d'aller vouloir tester un restaurant, tu te dis mais en fait j'ai pas du tout faim. J'ai vraiment pas du tout faim. Je
non, ça m'arrive jamais.
Ah oui, c'est vrai,
j'ai toujours faim. Ouais, j'ai tout le temps la dalle. Et même si j'ai la dalle moyen, le gars il me propose sa carte, je vois les plats et direct j'ai envie. En fait c'est toujours un plaisir. Franchement j'y vais jamais la corde au cou en me disant faut que je fasse une vidéo, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Et puis quand tu rencontres des restaurateurs passionnés aussi, même si t'as pas faim, ils donnent faim en fait.
Mais c'est vrai qu'un jour moi j'avais rencontré un mec qui fait des kebabs. Tu te dis bon un kebab c'est tout simple et tout. Mais le mec faisait vraiment tout, mais absolument tout maison. Les légumes il les faisait pousser dans son jardin. Et ben le fait de rencontrer un mec comme ça qui était hyper passionné. Mais t'avais vraiment envie de manger son kebab, même si t'avais pas faim sur le moment, tu vois.
Bien sûr, et la street food, elle est vraiment montée en gamme ces dernières années.
C'est ouf.
Aussi bien les burgers que même les kebabs, hein, alors qu'à la base, les kebabs, c'était vraiment synonyme de malbouffe. Bon, faut pas en manger 3 par jour, bien sûr, mais quand le mec fait son pain maison, sa broche maison, ouais, sa sauce maison, bah c'est de la cuisine, quoi. Hein.
Mais moi, je suis un peu middle sur les kebabs qui sont trop bien faits.
Pourquoi?
Parce que quand je prends un kebab, je veux prendre des risques.
Ah,
je veux risquer une intoxication alimentaire. Je veux pas qu'on me foute de la grenade dans mon kebab.
Je comprends ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à la base, quand tu vas dans un kebab, tu vois, c'est le kebab, c'était pas forcément propre par terre, limite, il y avait du sang sur les murs et tout. Et maintenant, il y a une boboïsation du kebab.
Mais c'est vrai,
on
c'est
le vrai voit. Ouais. Ah oui, à Paris d'abord, et ça part. Maintenant, tous les jeunes qui créent un kebab, ils font le Berliner kebab. Donc c'est inspiré par le kebab qui est né à Berlin, par l'immigration turque qui est arrivée notamment dans les années 80. Et là-bas, ils font, d'ailleurs même en Alsace c'est la même chose, il y a beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de crudités, il y a du chou rouge, c'est pas juste salade, tomate, oignon. Et donc depuis quelques années, il y a d'abord un Berliner kebab qui est arrivé à Paris, qui était du côté de Oberkampf, Voltaire par là. Et maintenant, j'ai l'impression que tous les jeunes qui ouvrent un kebab, c'est le Berliner kebab. Donc on te rajoute de la grenade dessus, du chou rouge, t'as limite l'impression que c'est elle-ci tellement il y a de légumes. Mais il y a la viande et le pain quand même. Hein.
Ouais, et puis ça coûte plus cher en plus, mine de rien, les Berliner kebabs. Ouais. Alors que avant t'as la formule kebab avec ta boisson, tes frites à 8 euros.
Ouais, même moins, il y a des endroits. Et puis quand tu vas en France, quand tu te balades un petit peu, il y a des endroits, c'est 4,50, 5 euros.
Ah ouais.
En région parisienne, 5-6 euros. Et là maintenant, ouais, ça monte à 8-10. Hein.
C'est fou, moi à mon époque, tu mettais 4,50 euros, t'avais frites, kebab, boisson. Hein.
Alors t'imagines à la mienne. Je suis plus vieux que toi.
Flo, on avait envie de te demander avec moi, c'est quoi les. Genre, si tu devais nous citer les meilleurs restos que t'as fait en Ile-de-France, pas forcément juste à Paris, ouais, en Ile-de-France, les meilleurs trucs que t'as testé.
Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est une question. Souvent dans la rue, les gens me m'arrêtent, c'est quoi le meilleur resto que t'as testé? J'en teste tellement. J'en suis à presque 1400 vidéos, j'ai un petit peu de mal à répondre. Donc après je peux vous répondre comme ça, c'est si on veut en région parisienne, à Bagnolet. Alors il y a une histoire super, ça s'appelle Madame Tourte. Et elle à la base, c'est en plein cœur vraiment d'une cité, d'un ensemble d'immeubles. À la base, c'était un local à vélo qu'elle a réussi à avoir légalement, hein, okay, par le syndic, la copropriété et tout. Elle en a fait un petit resto. Donc c'est au début ça a démarré limite comme un food truck, mais au final c'est du dur. Hein. Maintenant elle a fait une petite terrasse, elle a fait un truc, elle a fait une petite déco trop sympa. Et donc elle fait des tourtes. On connaît les tourtes, hein, ouais, de la pâte dessus, de la pâte dessous, et tu fous en fait à toutes les recettes que tu veux à l'intérieur. Donc elle fait soit les recettes vraiment fat, comme aiment ceux qui mangent les tacos ou les kebabs ou autres. Donc elle peut effectivement te mettre tout et n'importe quoi dedans si tu demandes cordon bleu, merguez, boulette. Mais elle fait aussi des vraies recettes travaillées à l'intérieur qui te font voyager un petit peu à travers le monde. Bon, il y en a une avec un super bœuf qu'elle met dedans, qu'elle marine elle-même. Elle te met les alocos, les bananes plantains qu'on mange beaucoup sur tout le continent africain d'ailleurs, même aux Antilles et ailleurs. Une petite sauce qu'elle fait maison et ça s'appelle Madame Tourte. C'est à Bagnolet. Franchement, j'aime beaucoup. Après, faut me dire en fonction de. Vous voulez. Vas-y, donnez-moi un thème.
Non, mais c'était bien. Et un autre resto du même genre.
Genre, elle, par exemple, Maud, elle a des petits trucs là, gros comme ça, qui crient un peu partout.
En vrai, c'est un vrai problème. Parce que quand t'as des enfants, souvent, les restaurants, quand tu arrives, ils te regardent un peu de haut. Et ça les embête parce que les enfants, ça fait du bruit.
Ouais.
Et que ça gêne un peu les autres clients. Est-ce qu'il y a des restos qui sont un peu ce qu'on appelle kids friendly, où tu peux avoir des chaises hautes, même une table allongée dans. Tu vas dans
les
toilettes.
Il y en a de plus en plus, même des jeux pour les enfants.
Ah, ça, c'est bien.
Il y en a un que je connais.
Ça s'appelle le McDo.
En vrai, c'est là où je vais avec mes enfants.
Non, non, mais il y en a un à Bondy, le Harris Café. Donc ça, c'est très connu et c'est en mode fast casual. C'est-à-dire qu'ils cuisinent vraiment maison. Ils font plein de choses à manger, aussi bien en mode fast food que des plats. Il y a des plats du jour. Des fois, ils font des tagines. Des fois, ils font des trucs. Enfin, ça ratisse vraiment large. Et eux, donc au Harris Café à Bondy, il y a carrément, je crois, limite une piscine à boules pour les enfants. Il y a des jeux et tout. Et il y en a un autre au Vert Saint-Denis. C'est dans le 77, à côté de Melun. Ça s'appelle Place to Eat. Là, c'est en mode food court. C'est-à-dire que t'as 6 enseignes de resto qui ne sont pas, qui ne dépendent pas les uns des autres.
Ouais.
Donc t'as un thaï, t'as un indien, t'as un kebab justement, t'as du burger, du smash burger. Bref, t'en as 6 comme ça. Il y a des tables et il y a même des bornes de jeux pour les enfants. Je crois qu'il y a même limite une table de ping-pong.
Ah, c'est trop bien ça.
Et là, pour les familles, c'est vraiment bien. Ça s'appelle Place to Eat et c'est au Vert Saint-Denis, qui n'est pas à côté de Saint-Denis, c'est dans le 77. Hein. C'est un faux ami.
Je vais y aller ce week-end.
On redonne les deux adresses. La première, donc, c'est à
Harris Café à Bondy pour les enfants, avec plein de jeux pour les enfants,
ouais,
et Place to Eat au Vert Saint-Denis dans le 77.
Je sais pas si c'était une bonne idée de t'inviter genre là sur les coups de midi 15.
Ah, ah. Si, mais vous savez, vous allez me trouver ce week-end. Hein,
voilà. Elle va faire la tournée avec ses enfants pour tester.
On continue de parler avec toi, Flo, juste avant. Voici Offenbach sur Voltage.
l'invité du 10-15.
Tu vois, t'es pas trop dépaysé. On passe du Calema, nous aussi, sur Voltage.
Ah oui, c'est vrai que sur ma radio, on passe aussi du Calema.
Ouais,
on l'a passé avant vous.
Florian Nerre est notre invité cet après-midi sur Voltage. Je dis ça parce qu'il travaille vraiment dans la radio d'à côté. Hein. C'est-à-dire vraiment, Latina, c'est à 3,50 m du studio de Voltage.
C'est, regardez, écoutez. Voilà. Sur le mur, à côté c'est Latina.
Alors Flo, tu bosses sur Latina, mais tu bosses aussi sur YouTube. Tu bosses pour, tu bosses pas pour YouTube non plus.
Non.
Tu fais des vidéos sur YouTube où tu vas tester plein de restaurants partout en France, partout en Ile-de-France. On est à combien de restos à ton actif?
Bah écoute, je sais pas, j'ai fait près de 1400 vidéos, donc voilà. Plus les, parce que je vais aussi au resto quand je fais pas de vidéos pour mon plaisir personnel, donc ça en fait.
Comment t'as eu envie d'ailleurs de démarrer les vidéos sur YouTube?
En fait, j'ai découvert, c'est à la fin de l'année 2015, j'ai découvert le format vlog. En fait, c'était l'époque où il y a Snapchat qui commençait à fonctionner et tout, mais Snapchat c'était embêtant à l'époque parce que c'était juste, fallait faire des vidéos de 15 secondes et tout, on pouvait pas raconter trop de trucs. Et donc j'ai découvert le format vlog où en fait tu te filmes toi-même avec ta caméra et tu vas où tu veux. T'as pas besoin d'avoir un monteur, un preneur de son. Si le matin à 9h je décide d'aller dans un endroit, hop, je peux y aller direct. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans le format vlog. C'était pas 100% bouffe à l'époque, j'emmenais les gens avec moi dans mes activités, donc la radio, le ciné, les spectacles. Et comme je suis toujours allé beaucoup au restaurant, bah c'est vrai que 2-3 fois par semaine il y avait des vidéos où j'allais au restaurant. Et j'ai démarré, donc oui, j'avais 0 abonné, donc j'avais 50 vues par jour, personne ne regardait. Je m'étais fixé le défi de faire une vidéo par jour toute l'année 2016. Et le petit frémissement au niveau des vues, c'est à chaque fois que j'allais au restaurant. Donc à la place qui est 50 vues, il y en avait 200, tu vois, mais pour moi c'était énorme, 200 vues, voilà. Et donc petit à petit, j'en ai fait de plus en plus. Et puis j'ai eu 1000 abonnés au bout de 3 mois. Après ça allait assez vite. Et il y a un jour, j'ai mangé un burger à 6 steaks. Et là, c'était l'explosion. J'ai eu plein d'abonnés qui sont arrivés d'un coup. Et donc j'avais commencé en janvier. À partir du mois de mai, je me suis dit, on va faire le produit d'appel, la nourriture. Ça n'empêche pas de parler d'autres choses, parce que je peux recevoir des artistes, je peux aller manger avec un gars qui a une association qui veut en parler, mais toujours autour de la nourriture. C'est le produit d'appel, c'est ça qui attire les gens. Et puis après, avec la nourriture, on peut voyager, on peut faire plein de choses et décliner plein de sujets.
C'est laquelle la vidéo qui a fait le plus de vues pour le moment?
Alors c'est l'une des vidéos de mes débuts en fait, où j'avais testé.
C'est le truc de à côté de Notre-Dame.
Non, c'est les tacos.
Non, c'est les tacos, ouais. C'était le giga tacos à l'époque. C'était un gros tacos. Donc le French tacos, c'était la mode où il y a une grande, l'époque où il y a une grande enseigne de tacos qui commençait à se développer partout en France. Et moi, je voyais qu'ils faisaient un giga tacos, c'est-à-dire un énorme tacos de 2,5 kg qui fait la taille d'un plateau avec à l'intérieur merguez, cordon bleu et ainsi de suite.
Ouais.
Et j'ai voulu tester le concept marketing parce que je trouvais que tout le monde commençait à en parler. Et
c'est
en fait,
c'est pas le tacos, si tu arrives à le finir, on te le rembourse.
Ouais, exactement. Et donc, bon, je l'ai pas fini, mais la vidéo, en tout cas, elle a fait, je crois, ce jour, elle en est à 4 millions de vues. Il y a encore des gens 6 ans et demi après qui me découvrent avec cette vidéo. C'est ça, c'est la force de YouTube. C'est pas comme par exemple TikTok où ça disparaît au bout de quelques jours. Et donc alors, c'est pas la vidéo qui me résume le plus, mais je ne peux pas la renier. Voilà, c'est un peu aussi comme les chanteurs des années 80, ils en ont marre qu'on leur parle toujours du même tube. Enfin, moi à chaque fois ils font Gigatacos Florian Nerre.
Mais moi en vrai j'ai la vraie histoire de pourquoi t'as commencé ça. Parce
pourquoi
que je me rappelle, tu m'avais dit c'était une résolution de la nouvelle année. Tu voulais faire une vidéo par jour en fait t'es timide et c'était une façon de contrer ta
aussi,
timidité.
Tout à fait, parce qu'il faut aller aussi vers les gens. Mais je suis toujours timide. Hein. Alors maintenant quand je vais dans un resto, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que dans le milieu de la restauration, je connais un petit peu. Mais oui, au début j'arrivais avec ma caméra, le restaurateur il me disait, il est chelou celui-ci avec sa caméra. Et là, ça fait partie des trucs, ouais.
Il y a pas longtemps, t'es parti tourner une vidéo aux États-Unis pour une belle occasion, c'était la Coupe du Monde des burgers.
Ouais, à Dallas.
Énorme. Comment ça s'est passé?
J'ai suivi la Team Burger France. En fait, il y a aussi la Coupe de France du burger.
Okay.
J'étais jury d'ailleurs cette année. Et il y a un gars qui était champion de France l'année dernière, qui a emmené deux autres gars et qui a dit, on est champion de France. Là, il faut qu'on tente la Coupe du Monde de burgers. Donc tous les ans, c'est dans un endroit dans un état différent des États-Unis. Cette année, c'était au Texas, à Dallas. Et donc, j'y suis allé avec eux comme ça pour les suivre un petit peu en mode. Donc on habitait dans la même ville là et au jour le jour, j'ai vécu avec eux toute l'évolution, toute l'aventure, tous les burgers, les hauts comme les bas, parce qu'il y a des moments où ils avaient des coups de mou et tout ça. Et comme je chantais les vidéos au jour le jour, bah, dans les commentaires, les gens leur remontaient le moral et tout.
Oh.
Et au final, ils sont arrivés deuxième.
Ah, c'est
énorme,
bien, hein,
fort.
Derrière des Américains, mais c'était la première fois que la France participait. Et donc, bon, ils étaient déçus, ils voulaient être premier, mais attends,
c'est déjà vachement bien.
Bah oui, c'est énorme. Quoi.
Mais alors du coup, le mythe des burgers américains qui sont archi bons, c'est vrai ou faux?
Alors ça dépend ce que t'appelles bon. En fait, on n'a pas la même culture. Ici en France, on a vraiment la culture du burger gourmet de plus en plus, avec une bonne viande, un bon fromage. Voilà. Donc eux, ils avaient fait venir des fromages de France et tout. Les Américains, des fois, ils en ont rien à faire. Hein. Tu leur mets un gros cheddar, tu leur mets trois steaks et une sauce barbecue, ils sont contents, tu vois. Donc c'est les différences de culture. Après, bon, pas bon, bah, ça dépend. Hein. C'est les goûts et les couleurs.
Mais il y avait genre tous les pays du monde qui étaient présents.
Non, pas tous. Il y avait sur 28 équipes, il y avait déjà, je crois, 22 équipes américaines.
Ah oui, d'accord.
Quelle arnaque. Mais c'était la première année où ils recevaient des équipes. Il y avait une équipe japonaise, une équipe de Dubaï, il y avait l'équipe française, il y avait quelques équipes.
Tu les as tous goûtées?
Non, bah non, malheureusement, moi j'étais avec les Français, j'étais pas dans le jury, donc ouais. J'ai goûté que le burger des Français, je peux pas comparer.
Flo est avec nous jusqu'à 13h sur Voltage. Florian Honner, si vous avez des questions à lui poser, il y a le WhatsApp de l'émission aussi. Je sais pas où est le téléphone, Maude, on va le trouver.
Qui est parti avec le téléphone?
Le WhatsApp de l'émission 07 80 80 64 64 et revient dans un instant, juste après Beyoncé. Alors Flo, ce petit Maneskin, on en pense quoi?
Il fait du bien.
The Loneliest sur Voltage.
Quand on a faim comme ça. L'invité du 10-15. Ça fait penser à autre chose au moins.
Florian Honner est mon invité ce midi sur Voltage, la radio parisienne. Florian qui teste à peu près tous les restos du monde tous les jours.
Tous les restos du monde tous les jours. Je suis Joseph Finange gardien, je me téléporte partout.
Flo, je plaide coupable, j'ai déjà volé des trucs dans des restos. Je pense notamment au sel de chez Buffalo Grill avec le mélange spécial grillade. Et je trouve que je l'ai déjà un petit peu piqué.
Mais il y a le récipient ou c'est juste le sel
Non, le récipient il est parti avec aussi.
Il paraît que ça part vraiment dans les restos. Le poivre, le sel, c'est ce qui part en premier.
Et en ce moment chez McDo.
Ouais.
Toute la nouvelle vaisselle là.
Ouais, la nouvelle vaisselle, parce que normalement ils ont plus le droit de nous donner des trucs à jeter, ça doit être réutilisable. Ouais. Et les gens les volent depuis 15 jours que ça a commencé, là, depuis le 1er janvier.
Et ça me fait rire parce que tu sais, ils disent que la vaisselle de McDo elle est géolocalisable.
Ouais.
Calmez-vous. On va pas te retrouver si tu pars avec à l'autre bout de l'Île-de-France. Je pense pas qu'il y ait une map non plus.
Est-ce que la police peut débarquer chez nous en disant
vous avez piqué un verre McDo?
On parlait de ça avec toi l'autre jour, Flo en antenne, parce que on le croise souvent vu qu'il bosse vraiment dans la radio d'à côté. On parlait de toi, t'as des restaurateurs qui t'ont dit qu'en fait on pique pas mal de choses, il y a pas mal de clients.
Ouais. Tout, mais même des trucs, alors les couverts, ok, c'est classique, le sel, le poivre. On m'a dit les petites ardoises sur lesquelles ils écrivent soit le plat du jour et tout ça.
Non.
Pareil, les gens ils les volent, comme ça après les enfants ils peuvent dessiner dessus à la maison. Et il y a un restaurateur, ils ont tous des anecdotes. Le pire qu'on m'a raconté, c'est qu'un restaurateur me raconte qu'un jour après le service, il va aux toilettes. Il n'y avait plus la cuvette des toilettes.
Quoi?
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un client, qui est parti avec la cuvette des toilettes quand même.
C'est quand même le truc le moins hygiénique.
Ah bah, sachant tous les gens qui sont assis dessus, tu repars avec ça chez toi. Et surtout, personne ne l'a vu partir du resto avec la cuvette sous le bras.
Mais est-ce qu'au moins c'était un resto classe, genre la cuvette elle était en marbre?
Non, c'était
une cuvette normale, j'imagine.
Le gars il a fait un truc sur la cuvette, il voulait pas que ça se voit, il a pris la cuvette avec lui, et c'est tout.
Bah, ça m'étonnerait, les gens ils s'en foutent, hein, ils font pipi partout dans le resto, ils en ont rien à faire.
Et bon appétit.
Allez, bien sûr.
Flo, on était trop content de te recevoir ce midi sur Voltage. On va mettre toutes les bonnes adresses que tu nous as dit tout à l'heure sur l'antenne, on va partager ça sur les réseaux sociaux.
Ok.
Et puis on a une petite tradition ici sur Voltage, on laisse à l'invité choisir un morceau.
Ah là là, ça c'est un luxe.
Bah
hein.
Ouais, fais-toi plaisir.
Je vous ai dit, j'ai toujours du mal à choisir un resto, à dire quel resto préféré, j'ai du mal à choisir un morceau, mais là comme c'est vendredi, un petit peu de dance music des années 90, parce que moi c'est ma génération quand même. Hein.
Corona, ça peut faire plaisir.
Corona, the rhythm of the night.
Rhythm of the night. Merci Flo, passe une belle journée et on
merci
est sur Corona sur Voltage.
Bonne nuit sur Voltage. Voici votre musique préférée.
Hola, tú sabes que te quiero enamorar. Y esta noche vamos a darle rumba. Que nunca pare, que nos gusta bailar. Nos gusta bailar. Mami, yo sé que tú me quieres. A mí, dime qué ritmo tú prefieres. Baby, la noche está para los placeres. Así, mami, yo sé que tú me quieres. Yo sé que tú me quieres.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te
toca, toca, toca.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca.
Tú sabes que me gustas, vamos a jugar. Trae tus amigas que podemos janguear. Nena, no pare que hoy vamos a bailar. Hoy vamos a bailar. Mami, yo sé que tú me quieres. A mí, dime qué ritmo tú prefieres. Baby, la noche está pa' los placeres. Así, mami, yo sé que tú me quieres. Yo sé que tú me quieres.
Hasta
toca.
La nuit, c'est le moment sur Voltage où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Bonjour Eric Tolenado, Olivier Nakache. Alors, vous attaquez deux nouveaux thèmes dans ce film, Une année difficile. Vous êtes des vrais fans de cinéma. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait dans le cinéma?
Voilà, c'est là tu appuies, cher ami, sur une peur mais chronique. Et obsessionnel, c'est vraiment, je pense qu'on a éliminé tellement de sujets parce qu'on s'est dit, ça a déjà été fait, bien fait, même pas bien fait, mais on veut pas aller sur les terrains, au contraire, quitte à se planter, on préfère aller défricher des terrains plutôt non explorés, ce qui a été le cas ces dernières années, heureusement pour nous.
Tu vois, là par exemple, on avait envie de faire un film sur une poupée, Barbie, un truc comme ça. Finalement, ça a été fait, puis on va pas le faire, en plus ça n'a pas marché.
Non, on avait dit aux gens, habillez-vous en rose et tout, ouais. On avait tout le truc. Ouais.
On va passer à autre chose.
Alors après Barbie, du coup, est-ce que c'est le surendettement ou l'écologie qui a pris le dessus au début sur une année
difficile ? C'est la bombe atomique. évidemment, c'est les deux sujets qui nous intéressaient. Et évidemment, on avait intuitivement la sensation qu'il y avait une complémentarité possible, un pont possible entre les deux, puisque il y a un rapport entre le plus et le moins, le vide et le plein. Et on a travaillé ces sujets-là en corrélation, en réfléchissant à qu'est-ce que ça pouvait imbriquer. Et c'est la comédie qui est venue se poser comme solution à essayer d'expliquer, à mettre en relation des situations justement entre des gens qui sont que dans la consommation, la surconsommation, et qui n'ont que faire de l'avenir de la planète, et des gens qui se préoccupent beaucoup moins d'eux-mêmes, et qui, en gros, des gens qui veulent se sauver eux-mêmes dans la vie, et d'autres qui veulent sauver le monde. Et c'est ce paradoxe-là et ce parallèle-là qu'on a voulu mettre en scène à travers une comédie un peu à l'italienne, un peu grinçante comme ça.
Alors, vous avez collaboré avec des associations militantes pour la préparation du film. Est-ce que vous avez fait la même démarche avec des personnes en situation de surendettement ?
Tout à fait.
Ouais.
On a été accueillis par une association qui s'appelle Crésus, voilà, qui essaye d'aider, gérée par des bénévoles, qui essaye d'aider des gens en situation de surendettement et de précarité. Donc oui, on a fait des ateliers d'éducation budgétaire pour aller à la rencontre des gens jusqu'au parcours de la Banque de France. On a suivi des gens qui avaient vraiment des soucis de surendettement. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a le droit à une deuxième chance. On peut se faire effacer les dettes par la Banque de France. Donc c'est la constitution d'un dossier, c'est tout un protocole, et on est rentré dans les rouages de ce protocole.
Ouais, peut-être beaucoup d'éditeurs qui vont le découvrir du coup
avec
le film. Alors quand on débute dans le cinéma, on vit forcément des années parfois difficiles. Quand on est étudiant aussi, est-ce que ça a été votre cas? Et si oui, quel regard est-ce que vous avez sur ces années-là aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elles vous ont appris?
Déjà, nous, on les a vécues à deux, ensemble, à l'époque, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque où on était justement étudiants et dans la post-adolescence. On a fait pas mal de petits boulots, on a vécu des années... Alors, ces années difficiles, elles sont assez formatrices. Pour moi, je pense que ce serait arrivé d'un coup et on aurait pu faire des films plus tôt, on aurait été moins mature pour aborder le sujet. Il faut qu'il y ait eu du désir, il faut même qu'il y ait eu de la frustration, à mon avis, pour que on soit content de monter de temps en temps sur le podium quand un film fonctionne. Pour le coup, on a réussi à transformer à peu près toutes nos expériences en film. On a travaillé dans des mariages, on a fait le sens de la fête, on a travaillé dans les colonies de vacances, on a fait nos jours heureux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme...
Hors normes,
on a côtoyé des associations qui s'occupaient d'enfants autistes, on a même travaillé pour eux, et on a fait hors normes. Donc, je pense que c'est des années sandwich, où justement on se nourrit de sandwich d'ailleurs, mais où on se nourrit de matière qui va à un moment ou un autre sortir en fiction.
Alors, dès l'intro, vous mettez beaucoup de rythme, ça va vite, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple dans Hors Normes avec Une Course Poursuite. Tout au long du film, on va avoir beaucoup de décors différents, on imagine beaucoup de moyens en termes de production et d'autorisation de tournage, ça a dû être un défi pour certains endroits, je pense au Trocadéro ou la Banque de France.
Oui, c'est un défi, ce film n'a été qu'une succession de défis à relever, et c'est tant mieux parce que on aime aller dans des nouveaux territoires. et se mettre en danger et relever des défis. Oui, en production, ça a été un film compliqué à échafauder.
Alors, est-ce que ça vous manquait un petit peu après en thérapie, ou c'est quand même beaucoup plus calme en termes de
très franchement, ça nous manquait. Ouais, parce que effectivement, on a passé 4 ans à écrire des scènes de chant contre chant entre deux personnes. C'était fabuleux. Il fallait tout passer par le jeu et l'intériorité. Mais il était temps qu'on retrouve la vitalité. Puis c'est surtout aussi le post-Covid. Cette espèce de restriction de nombre de gens nous a sûrement donné envie d'écrire une scène avec 300 figurants dès le début.
Alors, on a Pio Marmaille et Jonathan Cohen au casting, qui sont deux grosses personnalités. En gérer un sur un plateau, c'est ok, mais les deux en même temps, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été simple?
C'est le bordel. À pas se mentir, c'est le bordel. Ils sont deux fortes personnalités. Il faut les canaliser, on n'était pas trop de deux. On peut dire les choses comme ça.
Après, oui, ce sont quand même de grands pros.
Oui.
Des grands pros, donc si vous voulez, ils savent aussi l'importance l'enjeu d'une journée de tournage et de scènes à tourner, du travail à abattre. Mais c'est vrai qu'on nommait pas avec eux la déconne. Et il y a de la déconne, et du coup c'est à nous de la canaliser, de la transformer, et pour que ça soit salutaire pour le film. C'est un échange.
Et du coup, comme Jonathan, il a déjà été réalisateur, est-ce qu'il comprend mieux vos attentes parfois? Est-ce qu'il a été force de proposition à certains moments?
Oh, il peut proposer, de temps en temps on prend, de temps en temps on prend pas, mais oui, il est plutôt créatif, et il y a quelques petits moments de brillance dans le film aussi qui sont des fulgurances qui lui sont arrivées, ou alors qu'on a eu comme idée au dernier moment. En tout cas, il est très réactif, c'est un peu comme un sportif, on lui envoie le ballon, il peut le renvoyer tout de suite. Mais ceci dit, Pio aussi, il a l'air moins comme ça, mais il peut être très, très vif et très réactif aussi.
Alors, vous avez évoqué la comédie italienne tout à l'heure. Il y a un film de Dino Risi qui s'intitule Une vie difficile. En plus du titre, on y trouve plusieurs similitudes avec des prises de position un petit peu radicales dans le film, une histoire d'amour qui semble impossible. Vous sentez-vous proche de la comédie italienne avec du coup son mélange de cruauté humaine, la cruauté sociale et la tendresse? On mélange tout ça?
Oui, on se sent proche au point de se revendiquer d'influence de comédie italienne tout au long des films, on en a parlé, mais c'est peut-être le plus italien celui-ci, puisque il prend tout le monde et il met tout dans un sac, et il met une sorte de dose de noirceur et de pessimisme qui se transforme avec la comédie en petits moments d'aération réguliers, et il dénonce et il aborde des sujets complexes avec légèreté. C'est tout l'art des Italiens de cette époque. Et puis alors, La vie difficile dont vous parlez a été le début de ce titre qui est arrivé corroboré par le petit montage que les gens découvriront au début du film, qui explique aussi, pour ceux qui ne le savent pas et qui voudront le savoir, pourquoi nous avons choisi ce titre.
Alors, il y a une grosse attente lors de la sortie de vos films. Comment est-ce que vous la gérez, cette attente? Est-ce que vous êtes plutôt du genre stressé ou du genre à en profiter?
Les deux. En fait, on est stressé.
Mon colonel, tu peux dire.
Les deux, mon colonel. On est stressé, on est névrosé, on a peur, on doute. Mais en même temps, on veut aussi en profiter. C'est pour ça qu'on fait une grande tournée dans toute la France avec le plus de dates possible pour accompagner le film jusqu'au 18 octobre, la date de la sortie. Donc voilà, on en profite, on va à la rencontre des gens, et en même temps, ça nous permet peut-être soit de nous rassurer un petit peu ou de nous calmer.
Ah, justement, vous parlez des doutes. Alors, quelle part de vos propres doutes et certitudes est-ce que vous avez intégré dans le film? Est-ce que des fois vous refusez un discours un peu trop radical, peut-être dans les dialogues ou dans une partie du scénario? Et du coup, sur ce duo, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
On se sent proche, en fait, c'est un peu bizarre, parce que on se sent proche de tous les personnages, parce que on les a fait tous parler. C'est un peu un théâtre de marionnettes, un film. Donc quand Noémie se met à dire on est là avec un mégaphone dans la main, on est la première génération à subir vraiment les effets du changement climatique et peut-être les derniers à agir, je me sens proche de ce qu'elle raconte, parce que c'est vrai qu'on nous parlait de ça à échéance de 2050, et qu'on voit que l'été qu'on vient de passer nous prouve que ça y est, c'est arrivé plus vite que prévu. Mais je me sens proche des losers magnifiques, d'un gars. Je me dis, si j'étais dans sa situation, j'ai toujours pensé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on perd à la sécurité, quand on perd un parfum, un déodorant. Je me suis dit, mais si j'étais dans la merde, j'irais tout de suite aller les chercher pour en faire quelque chose. Donc, tous les personnages nous intéressent.
Même le chien empaillé.
Même le chien empaillé. tous les personnages nous intéressent. On les défend tous. Et c'est tous un peu nous-mêmes et pas du tout. Et c'est ça la force de l'écriture, c'est qu'on peut mettre de soi et mettre de quelque chose de totalement différent. Et c'est le mélange que ça donne à la fin qui peut être savoureux ou pas. C'est vous qui jugerez.
Alors, du coup, en vous rapprochant de différentes associations pour préparer le film, vous côtoyez des gens, du coup, qui vont être dans le milieu écolo, des gens qui vont être en surendettement. Est-ce que c'est pas trop compliqué derrière dans l'écriture d'être, entre guillemets, moqueur pour faire rire les gens avec ce genre de sujet, sans essayer de les blesser, sans les blesser à aucun moment dans le film?
Mais nous, le mot moqueur, on l'a enlevé de notre vocabulaire, parce que ça n'a jamais été un rire qui nous a intéressé, la moquerie. C'est, depuis l'école, les moqueurs, on leur pète la gueule. Mm-hmm. C'est pas de la moquerie. C'est ce que nous, on trouve beaucoup plus noble, c'est le fait de rire de soi, l'autodérision. Et ça, au contraire, c'est peut-être le comble de l'élégance et de l'intelligence. C'est d'arriver à avoir le recul pour pouvoir se dire que on est finalement dans un théâtre humain, comme je disais, de marionnettes, et que c'est en se moquant de soi qu'on arrive un tout petit peu à avancer. Donc on a toujours fait ça. Si on l'avait eu peur, alors on aurait dit, mais on se moque des gens en fauteuil roulant, puisque dans Intouchables, il y a 1000 vannes sur la façon qu'on a d'être en fauteuil. Et pareil, on n'aurait pas abordé un sujet comme l'autisme en racontant des choses à droite et à gauche. On ne moque pas, on rit de situations pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre et pour mieux les digérer. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais le mot moqueur, quand on se moque, c'est qu'on se situe au-dessus d'une situation. J'ai pas l'impression et qu'on a la prétention de se situer au-dessus de quoi que ce soit. Mais je comprends la question, évidemment.
Alors du coup, si jamais demain il y avait un monde parfait, s'il y avait, admettons, une année facile, est-ce qu'on pourrait encore faire des comédies s'il n'y avait plus de problème?
Non, parce que la comédie, elle se nourrit du drame, et que le drame et la comédie sont voisins, comme l'amour et la haine, comme beaucoup de choses qui sont antagonistes. Donc non, mais peut-être.
Tu penses qu'on va avoir des années faciles là?
Non, ouais. Non, c'était juste pour.
Non, mais c'est vrai qu'on se nourrit de la difficulté à vivre, et mais en même temps, la comédie humaine, la comédie de la vie, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'avoir du recul et de rire de soi. Donc, tant qu'on pourra le faire, alors l'air sera respirable. Là, au moment où on pourra plus le faire, il faudra faire attention. Et n'oublions jamais que dans les dictatures, les premiers qui sont atteints, c'est les comiques, ceux qui veulent justement rire des puissants ou du pouvoir. Il faut garder cette capacité à rire et à s'analyser et à être en introspection.
Et la toute petite dernière, vous préférez être aimé ou humé?
Les deux, mon colonel.
Moi, je pense les que deux. Quand on hume bien, bien ouais. Quand on hume bien, quand on hume bien quelqu'un, c'est qu'on a de l'humour.
Vous êtes au cœur de la nuit sur Voltage. Avec de la musique à écouter. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you.
Never mind, never mind. Feels like you were never mine. Don't lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work. And it don't matter either way.
Oh, 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 oh Vous êtes sur Voltage. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Gad Elmaleh, une carrière, une réputation qui ne sont plus à faire, bien évidemment. Nous avions rencontré l'acteur fin 2022 à l'occasion de la sortie de son film Reste un peu, un long métrage dans lequel il se confie longuement dans son rapport à la religion, parfois d'une manière très intimiste. Nous lui avions demandé à quel point il y a du vrai et du faux dans ce personnage de Gad Elmaleh. Les questions et l'interview est menée par Iris Mazacurati.
Je dis souvent en m'amusant aux gens qui me posent la question, il y a des choses vraies et des choses pas vraies dans le film, mais je vous dirai pas lesquelles. Mais pour être répondre plus sérieusement, le point de départ du film, c'est-à-dire que la rencontre, en tout cas avec l'idée, le symbole, l'interdit aussi du côté du regard de la famille à ce moment-là, de cet enfant qui pousse la porte d'une église, le symbole il est vrai, l'histoire elle est vraie, ce point de départ il est vrai. Ce gamin qui a grandi dans une famille juive à qui on dit tu ne rentreras jamais ici, on lui dit même pas que c'est une église, qui questionne ses amis musulmans, qui eux aussi lui disent nous aussi on n'a pas le droit d'entrer, et qui commence à se demander pourquoi. Ça, c'est une histoire qui me touche, parce que c'est une histoire d'enfance, c'est une histoire qui raconte aussi quelque part, parfois, quand on a des certitudes, un confort dans nos traditions, dans notre culture, est-ce qu'il ne faut pas expliquer aux enfants, est-ce qu'il ne faut pas leur dire, tu sais, ça c'est un lieu de culte catholique, et les gens prient, et voilà ce qui s'y passe. Et comme nous, ben, on n'est pas catholique, on est musulman, on est juif, on est protestant, peu importe, nous voilà ce qu'on fait, et voilà. Et c'est ça même que j'ai envie que ça déclenche. Et c'est ça que j'ai envie comme discussion. D'ailleurs, la crispation sur les religions en France, elle vient du fait qu'on ne se connaît pas. Elle ne vient pas des extrêmes. Oui, elle vient des extrêmes ensuite, mais à la base, pour éviter les accidents, le fameux vivre ensemble, ce sera la conséquence du fait qu'on se connaît, qu'on se connaisse et qu'on rentre dans les lieux de culte les uns des autres pour être dans une vraie fraternité, et pas un truc affiché de vivre ensemble, quoi.
Et vous, votre façon d'arriver justement de découvrir la religion catholique, c'était Marie. C'est ouais. une fascination. Ouais. Mais cette attirance, on a l'impression parfois que c'est pas tant la religion catholique que pour sa personnification féminine, en fait. C'est vraiment...
Oui, ça c'est votre vision aussi féminine. Mais je l'entends et je l'accepte et je la contredis pas. Et c'est là que le film a plusieurs niveaux de lecture, de perception, et que je me souviens des potes un peu réticents à tout ce qui est des questions de la foi et de la religion, et qui m'ont dit oui, mais en même temps l'image de Marie c'est genre la protection parce que t'es un mec avec des trucs, c'est normal, c'est une quête d'absolu, c'est la pureté, et toi comme t'aimes. Je dis ben peut-être, oui aussi. Ouais, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements? Je sais pas, mais j'aime bien ce qu'il y a écrit dessus. Tu crois vraiment que... en fait, c'est pas tant ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. C'est qu'est-ce que ça me procure, en fait. Il y a cette phrase dans le film qui est importante. L'hypothèse de Dieu me procure de la joie. L'hypothèse, simplement, de Dieu. Et je sais pas si c'est vrai. On peut pas prouver l'existence de Dieu. Mais l'hypothèse de Dieu, en tout cas, est-ce qu'elle me fait du bien? C'est ça qui compte. Le résultat n'est pas important.
Et justement, quelle est la plus grosse difficulté à faire un film avec un vrai souffle spirituel, tout en épousant, bah oui, les codes de la comédie classique, j'allais dire classique, mais...
La difficulté, je pense qu'elle commence maintenant. Et la difficulté, pendant la construction, je ne l'ai pas trop senti, parce que c'était vraiment un truc très ressenti, c'est une histoire perso, même s'il y a des choses pas vraies, qu'on a romancé, scénarisé. La difficulté, pas la difficulté, mais le c'est maintenant qu'il faut expliquer, amener le film aux gens, amener les gens au film et créer le dialogue. C'est là que c'est compliqué. Mais compliqué, c'est pas insurmontable, c'est juste que... On a pour habitude, dès qu'il s'agit de religion, de se fermer. Mais même moi, sur des questions parfois, je dis, allez, j'ai pas envie de parler. Et en fait, ça nous empêche d'être connectés. Donc ça, c'est une difficulté pour moi que... Enfin, c'est pas une difficulté parce que je le fais, mais c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Pour la plupart, les gens se disent... d'ailleurs, vous-même, vous posez la question. C'est rare, sur un thème ou sur un sujet, qu'on dise, mais c'est pas compliqué de parler de ce thème. Eh ben oui, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y avait un écueil que vous souhaitiez vraiment éviter?
Oui. L'écueil que je voulais éviter, c'est le plaidoyer ou alors le truc telle ou telle religion est mieux qu'une autre, ou alors non, ça ce serait absurde quoi. Ce serait totalement absurde, ça ne veut rien dire. Le chemin de vérité d'un homme ou d'une femme qui se cherche, il n'a pas plus de valeur s'il est juif, musulman, catholique, protestant ou que sais-je encore. Je ne vais pas citer toutes les pratiques et les fois et les confessions. Il n'a pas plus de valeur. Moi, je suis, je sais pas, à l'écoute, admiratif, sans jugement, en tout cas, sur les gens qui cherchent leur voie et surtout qui sont en quête du divin.
Et justement, à un moment dans le film, je sais plus si c'est vous ou si quelqu'un dit « avoir la foi, c'est avoir le doute ».
Oui.
De quoi vous doutez le plus ? Et est-ce que vous doutez de vous-même ?
Ben, le doute, totalement. C'est-à-dire que, pas la peur, mais le doute. Non, il y a le doute et la peur. La peur, ça me fait pas avancer. La peur, ça m'inspire des choses petites. La peur, ça inspire aussi la lâcheté parfois. Le doute, c'est formidable. C'est une énergie, en fait. Vraiment, c'est une chance, en fait, d'avoir le doute. Parce que c'est même mieux que des certitudes. C'est même beaucoup plus productif. C'est même plus lumineux. Parce que dans le doute, on avance. Dans les certitudes, on n'avance pas. On affiche quelque chose et puis... on essaie même de convertir les autres à notre vérité. Est-ce que je doute de moi ? Ben bien sûr. Est-ce que je doute de tout ? Je suis rempli de doutes au moment où ce film sort et comment il va être perçu ? Ben bien sûr. Heureusement. Sinon, et c'est parce que c'est un film là-dessus, justement. C'est un film aussi sur le doute. Heureusement, j'ai fait un film sur le doute.
Justement,
je doute.
Justement, comment est-ce que vous pensez que le... Qu'est-ce que vous attendez en fait ? Comment vous pensez que le public peut... peut-être quelqu'un qui s'attend à avoir chouchou et...
Oui, alors c'est clair que je le dis vraiment très clairement, parce que tous les soirs quand on fait les avant-premières partout en France, comme une blague je dis aux gens souvent, pour ceux qui s'attendent à voir Coco 5 ou Chouchou 4, bon c'est pas ce soir, et je rigole avec ça, hein. Bien que j'aime ces films profondément et que j'adore les films comiques et c'est mon ADN, la comédie pure, voilà, là c'est autre chose. On peut pas imposer au public, après le public, voilà, il est à l'écoute ou pas des vérités d'un artiste. C'est pas important que d'être adoubé là-dessus. C'est simplement ma mission, elle est. Bien sûr que je me réjouirais si les gens sont touchés par le film et qu'ils vont le voir. Et je peux pas mentir. On veut quand on sort un film que les gens soient touchés, mais encore plus sur celui-là, parce que quand on sort un film, ça nous remplit de joie que le film marche, ça fait des entrées, on est content, et les gens ont été rire, ont été, je sais pas, ils ont été émus, mais comme je leur propose une réflexion, le retour des gens, il est doublement gratifiant, parce qu'il y a le retour tout simplement du succès, alors ça c'est plus ton ego qui est flatté, c'est génial, mon film marche, et là il y a une deuxième couche qui est, waouh, ils ont perçu, ils ont entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient d'accord, hein. Tous les soirs on fait des débats avec des gens qui, je dirais pas qu'ils contestent, mais qui remettent en question des moments du film, qui me demandent pourquoi, qui sont... Mais ça c'est bien, moi je viens de là, moi je viens de la tradition talmudique où on interroge tout, on interroge même Dieu, on interroge tout, on défie tout, les textes, les commentaires de l'Ancien Testament, c'est uniquement le but des rabbins entre eux qui discutent, ils ont comme but de pas être d'accord. Et c'est de là que naît la richesse de la controverse. Donc moi je viens de là, donc je suis totalement habité par cette mécanique de pensée.
Et votre famille, alors comment elle a accepté de faire ce film avec vous ? Jusqu'à quel point vous leur avez donné les tenants, les aboutissants ?
Ben, j'ai un peu triché avec mes parents parce que je leur ai dit que c'était vaguement comme ça un film sur la crise de la cinquantaine. Enfin, j'ai pas été très, très honnête. Je dois être honnête là en disant que j'ai été malhonnête. C'est ma confession, je crois. Plus sérieusement, si je leur avais fait lire le scénario, je pense qu'ils n'auraient pas participé au film. Parce que je pense que ça aurait été trop un sujet délicat pour eux, épineux et trop... Ils ont eu peur, quoi, des réactions de leur famille, de leur communauté.
Et alors, comment réagissent-ils maintenant ?
Aujourd'hui, ils ont vu le film, donc ils sont apaisés, parce que le film propose un message de fraternité, d'amour, d'ouverture, complexe aussi sur la famille. D'ailleurs, je tiens à dire que la plupart des gens qui sont peut-être dans une volonté de non pas controverse, mais qui cherchent un peu la problématique d'aborder ces sujets, le fait que ce soit délicat, sont pour beaucoup des gens qui n'ont pas vu le film. Et je les comprends. Ils ne connaissent pas le film. Ils en ont une vague idée. ils pensent que c'est un film sur la conversion. Ah ouais, pourquoi ? Oui, oui ou non ? Alors conversion ou pas conversion ? Mais non, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus profond. Cela dit, c'est un bon argument de promo. Va voir le film et on en parlera après.
Exactement. Vous avez tourné vraiment vite, cette façon, avec peu de préparation, enfin peu de préparation en tout cas,
oui.
Et avec une équipe réduite, est-ce que ça vous a permis de dire, de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas pu transmettre avec une équipe plus importante?
Mais totalement, vraiment. Alors je suis pas dans le culte de du cinéma petit budget à tout prix, mais là pour le coup, ça m'a servi. C'est-à-dire que le fait que ce soit un film, disons-le hein, clairement, c'est un film à moins d'1 million d'euros, mon producteur à chaque fois me dit ne dis pas ça dans les interviews, mais dis-le. Les gens, quand on a des gros budgets pour nos films, on est content. Quand on arrive à faire un film et qu'on en est fier et qu'il n'y a pas de budget, il faut dire aussi aux gens que c'est un style et c'est un genre et qu'on peut faire des films avec des sujets importants ou en tout cas qui sont des vrais sujets qui concernent la personne qui les traite. On peut le faire avec un budget qui est réduit parce qu'on est dans une énergie, on est dans un propos, on est dans une équipe qui est au service de scènes. Comme vous dites, il y a une urgence et ça c'est très intéressant. Ça c'est une méthode. Et cette méthode, j'aimerais l'appliquer à d'autres sujets. Mais je ne la connaissais pas, cette méthode. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi Nanni Moretti, Woody Allen, Alain Cavalier, les metteurs en scène que j'admire, aussi travaillent parfois avec des petites équipes. Après, il y a certains films de ces metteurs en scène qui sont des gros budgets, mais on tourne dans l'urgence, on tourne dans l'énergie, avec un scénario très écrit aux côtés de Benjamin Charbi aussi.
Bienvenue au cœur de la nuit. On passe d'un sujet intéressant à un autre. C'est ça la nuit sur Voltage.
Les jeunes seraient-ils réticents à passer le permis de conduire? C'est du moins ce que laisse penser l'étude de référence Parc Auto menée par l'Institut Kantar. Les chiffres annoncent que 69% des 18-24 ans ont le permis en 2022 contre 77% en 2002, soit une baisse de 8% en 20 ans. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse. Un coût trop élevé, une prise de conscience environnementale ou encore l'objet voiture qui ne fait plus autant rêver qu'avant. Alors, on est allé poser la question à un spécialiste du permis de conduire.
Bonjour, Bruno Garancher, je suis président de l'association École de conduite française.
Alors Bruno, vous me disiez qu'il fallait être prudent avec les chiffres et surtout qu'il fallait les nuancer selon la zone géographique où se trouvent en fait les conducteurs.
Le recul de l'âge du permis de conduire est très variable suivant les zones géographiques puisque globalement, si c'est assez vrai dans les zones urbaines où des moyens alternatifs de transport peuvent être utilisés, transport en commun, utilisation du vélo, etc. et des mobilités douces. C'est beaucoup moins vrai dans les zones rurales et dans les villes moyennes, puisque là, la plupart du temps, les jeunes n'ont d'autres moyens que l'accès à l'automobile pour arriver à gérer leurs déplacements du quotidien. Ce qui veut dire que quand on regarde, nous, effectivement, la répartition des âges de passage du permis de conduire, on s'aperçoit que les agences qui sont situées dans ces villes moyennes et dans ces zones rurales restent sur des âges qui sont plus proches de 18 ans, voire qui ont tendance à se rajeunir. Puisque si effectivement on avait vu jusqu'en 2019 apparaître un réel vieillissement, qui était probablement dû aussi au fait que pour les familles, la charge du financement du permis de conduire devenait de plus en plus difficile à supporter, les différentes mesures qui ont été prises de façon à favoriser le financement par les familles, que ce soit le permis à 1 euro, la prise en charge partielle de la formation par les centres de formation d'apprentis pour les jeunes qui sont apprentis, l'utilisation du CPF pour les gens qui ont pu travailler comme apprentis par exemple à partir de 16-17 ans ou simplement qui ont travaillé en job d'été ou en job d'accompagnement de leurs études, on voit nettement un rajeunissement, et je le répète, hein, surtout sensible dans les zones rurales et villes moyennes.
Alors il y a quand même quelque chose que je note à titre personnel, c'est qu'on remarque que chez les jeunes lycéens, ce n'est plus tellement un objectif comme il pouvait l'être il y a quelques années. C'est-à-dire que avant, c'était comme le bac, c'est-à-dire il fallait passer le bac et puis le permis. Là, on a l'impression qu'il y a un peu un désintéressement, qu'il y a des choses qui font que bah voilà, le permis ne devient plus réellement obligatoire dans l'état d'esprit des jeunes.
Oui, vous avez raison, mais en fait, c'est pas tellement lié à l'utilisation du véhicule, dans le sens où globalement, les jeunes conviennent sans aucun problème qu'ils ne peuvent pas se passer de l'auto, c'est plutôt lié aux représentations qu'ils ont vis-à-vis de l'automobile. Les générations un peu plus anciennes, entre guillemets, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin, passer aussi le permis de conduire par rapport à l'aspect social de l'automobile. C'est-à-dire que le permis de conduire, vous le disiez assez bien, faisait partie des rites de passage vers la vie adulte et pouvait aussi correspondre à des représentations individuelles qui faisaient que avoir une automobile, entre guillemets, sa place vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, ces représentations, effectivement, sont en très très net recul, ce qui est aussi à des effets plutôt positifs, parce que ça veut dire que si on met moins d'affect dans l'automobile, on risque moins de l'utiliser comme objet de représentation et de pouvoir, entre guillemets, ou de frime. Ça génère aussi des comportements qui sont différents sur la route, mais il n'empêche, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'auto reste, de toute façon, y compris pour ces jeunes-là, un objet d'obligation, c'est-à-dire que faut bien passer par là, certainement, pour une partie du moins, sachant qu'il y a encore une partie de la population pour qui accéder à l'automobile est une vraie valorisation. Il y a encore une partie de la population pour qui passer le permis de conduire est accéder pratiquement au seul diplôme qu'ils auront dans leur vie et pour lesquels c'est à représentation forte.
Il y a aussi une évolution dans le choix des formations, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes vont aussi se tourner vers les boîtes automatiques, donc plutôt les voitures, on va dire, électriques, hybrides, et puis même, il y en a qui vont littéralement vers les voitures sans permis, par exemple la dernière là, de Citroën qui est sortie. Ça, c'est un vrai boom qu'on connaît chez les jeunes.
Comme les représentations vis-à-vis de l'auto sont moins fortes, bah, effectivement, on va aller vers des véhicules qui sont moins porteurs de symboles, plus pratiques, plus aisés à conduire et qui correspondent plus aux mobilités dont on a réellement besoin. Donc, vous citiez l'exemple de l'ANI, on pourrait citer globalement l'exemple de l'ensemble des quadricycles, puisqu'on voit que ce marché du quadricycle léger, qu'on a tendance à appeler voiturette, est en plein boom. Effectivement, aussi bien du côté de l'ANI, qui elle a en plus une caractéristique particulière, c'est que c'est un véhicule électrique, donc elle rentre dans le schéma global de ces mobilités douces et moins polluantes, mais on voit aussi les immatriculations assez considérablement augmentées du côté des constructeurs encore thermiques, je pense à Ligier et Aixam par exemple, qui sont les deux constructeurs français importants. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet à la famille de donner accès à un véhicule 4 roues plus protecteur, entre guillemets, que le cyclomoteur dès 14 ans. Et puis effectivement, dans cette espèce de continuité où on a commencé déjà à travailler avec un véhicule qui n'avait pas de boîte de vitesse, qui n'avait pas d'embrayage, ça emmène les jeunes à s'intéresser de plus en plus à la boîte automatique, d'autant plus que les véhicules auxquels vous faisiez référence, c'est-à-dire les électriques et les hybrides, sont tous équipés de boîte automatique pour un certain nombre de raisons. Donc oui, on a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui hésitent très clairement quand ils arrivent à 18 ans pour passer le permis de conduire, entre aller directement sur de l'automatique ou passer par la boîte manuelle, sachant quand même que la boîte automatique les intéresse pour des raisons de facilité et pour des raisons de coût, puisque la durée de la formation sur une boîte auto est amputée pratiquement d'un tiers de sa durée, donc derrière génère des économies de coût sur le permis de conduire.
Et est-ce qu'au-delà du contexte économique, il y a aussi le contexte écologique? C'est-à-dire que, ben voilà, moi j'ai pris conscience que j'avais envie de moins polluer en roulant avec ma voiture, donc je vais me tourner vers ce type de modèle.
Il y a ça, mais les jeunes se projettent aussi dans l'utilisation de leur véhicule en termes de travail. Et ils savent pertinemment que le véhicule qu'ils auront éventuellement à conduire en termes de travail, je pense aux apprentis par exemple, hein, apprentis du bâtiment, les apprentis qui savent que derrière leur métier sera conditionné par le déplacement, ils vont avoir tendance à malgré tout choisir la boîte manuelle parce qu'ils savent que dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, on n'aura pas forcément de véhicule à boîte automatique. Donc il y a un système d'attirance-répulsion. Alors souvent, ce qu'ils font, et sous notre conseil, c'est qu'ils commencent par la boîte automatique, sachant pertinemment que après 3 mois de permis de conduire, ils peuvent basculer sans avoir d'examen à repasser sur une boîte manuelle, simplement en passant par la formation.
Est-ce que vous auriez quelques chiffres pour illustrer un petit peu, alors déjà, la différence entre passer son permis dans un contexte urbain et dans un contexte rural, mais aussi passer son permis quand on habite Paris, la capitale, et puis quand on habite la province ou même d'une autre grande métropole de France?
Pour ce qui concerne les agences du groupe ECF, l'âge moyen du permis de conduire sur Paris Grande Couronne se situe aujourd'hui à 23 ans et 7 mois. Pour ce qui concerne une ville comme Bordeaux, on est un petit peu en dessous puisqu'on se situe à 22 ans et 2 mois. Et pour le centre-val de Loire, c'est-à-dire des zones comme Tours, comme Blois, on est sur un âge qui, lui, est descendu à 18 ans et 1 mois. Alors, sachant que dans le 18 ans et 1 mois, faut aussi prendre en compte le fait qu'en province, le nombre de jeunes commençant à apprendre à conduire avant 18 ans est nettement plus important puisque c'est dans ces zones-là que la conduite accompagnée est la plus développée. La moyenne nationale, toujours dans les entreprises du groupe ECEF, se situe aujourd'hui à 18 ans et 9 mois.
Donc finalement, on est plutôt sur des âges assez classiques. C'est vraiment sur la façon dont le permis de conduire est passé que les choses évoluent un petit peu.
Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, zone province, j'ai envie de dire, et Centre-Val de Loire, là-dessus, est complètement représentatif à mon avis. On est sur les zones où les jeunes passent le permis de conduire le plus tôt, à la fois parce que la conduite est accompagnée et la plus représentée. Donc on a des jeunes qui vont passer réellement les épreuves du permis de conduire à 18 ans et un jour, j'ai envie de dire presque, voire même certains le passent avant 18 ans, puisque la loi le tolère aujourd'hui, avec le droit de conduite, le droit de conduire à 18. Et une région comme Centre-Val de Loire pour l'ECF, c'est plus de 32% des jeunes qui passent leur permis de conduire en conduite accompagnée. Dans les zones urbaines, d'abord parce que les parents, souvent, ont moins accès à un véhicule qui leur permet facilement de faire de la conduite accompagnée pour différentes raisons. Là, effectivement, les jeunes passent de leur propre autorité le permis de conduire. C'est vrai à Bordeaux, un peu moins qu'en région parisienne. Et là, on a des âges qui sont un petit peu plus élevés. C'est-à-dire que les jeunes vont commencer à penser au permis de conduire à partir du moment où ils vont penser insertion dans l'entreprise.
Donc pour vous, tant qu'on n'aura pas développé plus les transports en commun, en fait, le permis de conduire et la voiture plus largement resteront le moyen de transport majeur chez les Français ?
Aujourd'hui, de toute façon, les moyens de déplacement autres que la voiture ne sont pas suffisants pour gérer la totalité des déplacements privés et professionnels. Donc ça amène effectivement aujourd'hui toujours les jeunes à s'intéresser au permis de conduire à la voiture. Ce qui va évoluer, s'il y a une évolution à venir à terme, c'est pas le fait d'avoir son permis de conduire et de conduire, c'est le fait de pas avoir nécessairement une voiture en propriété pour l'ensemble de nos usages. Si on se projette, et quand on travaille nous avec Renault qui est notre partenaire, quand on se projette sur l'avenir, c'est plutôt le fait que la voiture risque d'être un objet partagé, la voiture risque d'être un objet vers lequel on investit moins, et financièrement et affectivement, mais ça reste encore aujourd'hui l'outil de déplacement le plus utilisé et le plus utilisable pour les déplacements du quotidien dès lors qu'ils ne sont pas couverts par les transports en commun.
Merci Bruno Garancher, président de l'ECF, pour cet éclairage sur les jeunes et le permis de conduire.
Je suis une intelligence artificielle, mais je suis quand même triste de vous quitter. Mais on se retrouve demain sur Voltage. Bonne fin de nuit à tous.
Charme, je suis tombé sur ton corps, mes larmes s'embellissent. Mais ton âme m'a trompé quand tes lèvres m'ont mis en délire. Je vois ton visage rien qu'à moitié. Le vrai se cache comme par pitié. Attends de me tuer comme ça. Je voudrais seulement être à côté de toi. Tu sais que ça fait mal de te laisser. Toi, est-ce que ça te plaît? Arrête de me tuer comme ça. Je voudrais seulement t'avoir tout près de moi. Tu sais que les mois effacent la peine. Et on fait comme ceux qui s'aiment. Ça fait mal, ça nous plaît, ça me fatigue.